c'est Gabrielle sur l'île de la Réunion. Je réponds au monsieur qui a un balcon ou une terrasse plein nord, qui pousse bien aussi au nord, mais qui craint le froid, donc à rentrer l'hiver et à couvrir l'hiver. Ce sont les azalées. Ça fait des fleurs, ça pousse très très bien au nord. Il faut arroser. Bon, bah bonne continuation à la Terre au Carré. Je vous écoute tous les jours, vous êtes super. Surtout ne lâchez rien. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Serge là, de Saône-et-Loire, vers Mâcon. J'aimerais répondre à ceux qui sont contre les éoliennes. C'est là des trucs paysages. Mais je crois que depuis que l'être humain existe, il a modifié le paysage. Je suis d'accord pour pas en mettre trop au même endroit. Les éoliennes tueraient des oiseaux. Certes, cela pourrait arriver, malgré qu'on fait attention de ne pas placer les éoliennes sur les couloirs de migration. Et j'aimerais savoir, les gens hostiles aux éoliennes ont-ils arrêté de rouler avec leur voiture, vu le nombre d'animaux tués sur les routes chaque année? Il faut savoir ce que l'on veut. Il faut absolument changer nos manières de vivre, surtout faire en sorte d'utiliser moins d'énergie et trouver des solutions propres, ce qui n'est pas le cas du nucléaire si on regarde la pollution à la sortie des mines d'uranium, le problème des déchets. Merci et bonne continuation à la Terre au Carré. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Anne, je vous appelle de Saint-Jean-de-Boiseau, en Loire-Atlantique, dans le 44. J'entends que demain, l'émission sera consacrée à la disparition de la population oiseau. Ben, nous, dans notre petit coin, on a une vague idée de ce qui se passe, peut-être la disparition des habitats. On a la chance d'avoir une très jolie forêt urbaine de seulement 14 hectares, qui s'appelle le Bois des Fous. Ça pioupioute, ça volette, ça trille tout ce que ça peut. On sait qu'il y a des poulots véloces, des rouges-gorges, des mésanges de toutes les sortes, des piquets-pêches, des pinsons, des troglodytes mignons, etc., etc. Et cependant, notre mairie a autorisé et même a fourni une parcelle lui appartenant à l'opérateur Bouygues pour une nouvelle antenne, alors qu'il y en a déjà une à 1,23 km. Donc on comprend pas très bien, mais ce qu'on voit, c'est que c'est en train de d'ores et déjà détruire plus de 200 mètres carrés d'habitat naturel, prairies, haies buissonnantes où se réfugient les oiseaux. Et on est très triste de tout ça et on comprend pas, parce que c'est pas faute d'avoir d'autres terrains à moins d'un kilomètre où vraiment il n'y a pas grand chose à part des grands champs d'agriculture intensive blé où ça pourrait aussi bien se faire. Donc si vous nous entendez, monsieur le maire, répondez-nous enfin sur la nécessité de cette antenne. Merci de votre écoute. Au revoir.
Voilà, et monsieur le maire, vous pouvez même nous répondre sur le répondeur de la Terre au Carré au 01 56 40 45 45 où ça va pioupiouter aujourd'hui. C'est une hécatombe dont on parle finalement assez peu et qui révèle pourtant l'ampleur de la dégradation de la nature. Il s'agit de la disparition des oiseaux, un déclin catastrophique qui se déroule là sous nos yeux et qui pourrait rendre nos printemps vraiment silencieux. Ces dernières années, les scientifiques n'ont cessé de lancer des alertes en montrant que les oiseaux des campagnes comme ceux des villes connaissaient un déclin massif. Qu'est-ce qui est donc à l'origine de ces effondrements de populations d'oiseaux? Eh bien, c'est le sujet de l'émission à l'occasion de la sortie d'un film la semaine dernière et d'un documentaire que vous pourrez voir dimanche soir sur France 5. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui en studio avec l'ornithologue Frédéric Giguet et le réalisateur Jacques Leuil. Bonjour à tous les deux.
Bonjour monsieur Bidard.
Bienvenue. Frédéric Giguet, vous êtes professeur en biologie de la conservation au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et Jacques Leuil, vous signez la réalisation donc de ce film Birds of America, actuellement dans les salles, et qui raconte comment un peintre français du 19e siècle, Jean-Jacques Audubon, est devenu l'auteur d'une œuvre mythique sur les oiseaux d'Amérique. Et puis, nous sommes également en duplex de Metz avec vous, Victor Noël. Bonjour Victor.
Bonjour.
Vous êtes lycéen, passionné d'oiseaux, et vous êtes, on peut le dire, la véritable révélation du prochain doc d'Hugo Clément sur le front, donc dimanche sur France 5, et qui se demande où sont passés nos oiseaux. On va en parler avec vous dans un instant, et vous allez répondre tous les trois aux messages des auditeurs qui arrivent pour parler oiseaux, donc sur la page de l'émission, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Avec une grande question, l'être humain pourra-t-il hiberner un jour? Et pourquoi faire potentiellement des longs voyages dans l'espace?
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Arestaray, préparée par Chantal Lemontagnier avec Jenab Sangaré. Voilà à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Dans notre pays, le nombre global d'oiseaux s'est effondré. En ville, ça remonte à quand, la dernière fois que vous avez vu une envolée de moineaux? Leur nombre a été divisé par 2 en 20 ans. Pour les sauver, encore faut-il savoir ce qui les menace. Il y a des hypothèses. De nouveaux prédateurs, la pollution, la nourriture, ils seraient victimes de notre malbouffe, les immeubles en verre, contre lesquels ils viendraient buter, ou encore le bruit. Les femelles n'arriveraient plus à entendre les mâles chanter. Partout en France, des combattants cherchent à comprendre pour pouvoir protéger nos grues, nos cigognes ou nos busards cendrés. Il y a urgence.
Extrait du doc sur le front que vous verrez donc dimanche soir sur France 5. Pourquoi les oiseaux disparaissent-ils à une vitesse vertigineuse et dans des proportions aussi importantes? C'est donc la discussion de cet après-midi avec Frédéric Giguet, ornithologue, Jacques Leuil, réalisateur, et donc Victor Noël, lycéen. Victor, on pourra voir dimanche donc dans le doc d'Hugo Clément. Comment vous avez participé justement à ce film et constaté à quel point vous êtes passionné par les oiseaux? Comment est née cette passion pour vous, Victor?
Cette passion, elle est née depuis que je suis un peu tout petit, quoi. Bon, c'est vrai qu'elle s'est vraiment renforcée à l'âge de 8 ans. Alors, je sais pas exactement comment elle a émergé, mais je pense que c'est surtout dû au fait que les oiseaux nous entourent. À chaque instant du quotidien, ils sont omniprésents. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir un jardin où je peux observer les oiseaux.
Ouais.
Donc, je pense que c'est cette omniprésence qui m'a fait m'intéresser aux oiseaux. Et puis, je pense que l'observation m'a aussi apporté beaucoup, dans le sens où, pour moi, l'observation, c'est un rapport au monde. C'est finalement l'occasion de donner une attention aux autres que nous et de prendre en compte que l'humain n'est pas le seul à habiter la Terre. Donc ça a été l'observation m'a ouvert des portes dans la prise de conscience, quoi, de toutes ces problématiques.
Alors vous habitez en Lorraine, est-ce que vous avez observé vous-même dans votre jardin ou à l'extérieur une baisse des populations d'oiseaux? Est-ce que vous en avez fait vous-même l'expérience?
Moi j'ai 17 ans, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de recul pour constater ces choses-là, mais c'est vrai que je côtoie beaucoup de naturalistes qui eux, en effet, en particulier à la campagne, voient justement ce déclin, notamment des insectivores. Et donc oui, c'est très inquiétant. Mais après, c'est vrai que moi, à mon âge, j'ai pas forcément eu l'occasion de voir ce changement.
Et quels animaux, quels oiseaux vous voyez le plus alors? Peut-être y en aurait un préféré, mais lesquels vous voyez le plus dans votre jardin, en l'occurrence, Victor?
J'ai pas de préféré, non. Tout m'intéresse. Bon, les oiseaux que je vois dans mon jardin, c'est des oiseaux assez communs.
Mais lesquels alors? Quelques espèces, allez, là, qu'on ait quelques noms.
Allez,
quand même.
Alors dans mon jardin, il y a des rouges queues à front blanc, il y a des rouges queues noires, j'ai des mésanges bleus, des mésanges charbonnières. Là, il y a un couple de pigeons ramiers qui a élu domicile dans mon pommier, donc qui a commencé à nicher. Donc c'est des oiseaux plutôt communs, mais bien souvent on oublie de les regarder tellement qu'ils sont communs. Or, tout oiseau est intéressant à observer.
Mon petit doigt m'a dit que vous aimiez bien les busards. Quand même, non?
Ouais, mais ça j'en ai pas dans mon jardin, les busards. Ouais.
Mais vous les aimez bien,
ça,
quand même, ces oiseaux.
Un rapace de taille moyenne migrateur qui niche dans les plaines céréalières.
Ouais. Frédéric Giguet, vous avez commencé à quel âge, vous, à vous intéresser aux oiseaux?
Oula, c'est un peu comme Victor. Je retrouve des photos quand j'avais 5 ou 6 ans avec des jumelles autour du cou. J'ai l'impression que ça a toujours été là.
Et vous avez commencé à aller dans des clubs petit à petit, alors c'était d'abord ornithologue.
D'abord en famille, et puis à l'âge de 15 ans, aller vers le milieu associatif pour pouvoir faire des sorties, découvrir des choses un petit peu plus loin, les busards à protéger en plaine de Bièvre, les chouettes de Tengmalm dans les montagnes, et puis dès qu'on a une voiture, hop, on peut partir tout seul l'été, toutes les vacances avec des copains, voir les oiseaux jusqu'à la Camargue.
Et vous, Jacques Leuil, alors il y a une passion oiseau aussi avant ce film Birds of America ou pas?
Oui, moi j'ai découvert les oiseaux quand j'étais aussi enfant, quand je faisais du camping, et puis quand j'ai fait de la randonnée, et en 2004-2005, j'ai découvert l'œuvre de Jean-Jacques Audubon, le peintre des oiseaux d'Amérique, lors d'une exposition au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, d'où il est originaire.
Ah, donc il y a l'idée, petit à petit, d'en faire un film, parce que c'est vraiment le héros de votre long-métrage, là. Hein.
Oui, c'est une idée qui a quand même sommeillé pendant longtemps, puisque je voulais pas en faire en biopic, je voulais pas faire un portrait.
C'est pas le cas.
Et donc, il a fallu que cette œuvre m'apparaisse comme étant une archive du ciel d'avant l'ère industrielle, pour que vraiment ça se formule comme un film sur la disparition.
Ouais, et c'est un grand peintre, c'est vraiment un artiste phénoménal que les Français connaissent très très mal, hein. Même s'il a passé toute une partie de son enfance à Nantes, hein, il est né à Haïti, mais les Américains le connaissent beaucoup mieux. Vous me disiez même en antenne que les Simpsons en ont fait un de leurs héros, hein, finalement.
En fait, aux États-Unis, c'est une vraie star. Il est présent partout dans l'espace public, comme peut-être en France Victor Hugo, si je peux me permettre la comparaison. Mais c'est vrai qu'on regarde un annuaire téléphonique américain, même celui de la ville de New York, hein, Audubon, il y a beaucoup d'entrées, quoi. Il y a toutes sortes de commerces qui portent le nom d'Audubon. Il est extrêmement connu. Les enfants apprennent les oiseaux avec les magazines Audubon. Donc il est effectivement une star aux États-Unis, mais connu en France où il est un peu limité à son rôle d'ornithologue, de naturaliste, alors qu'il est un grand artiste.
Frédéric Giguet, lorsqu'on est ornithologue comme vous, comment est-ce qu'on peut résumer ce qui se passe finalement aujourd'hui dans le monde avec les populations d'oiseaux? Allez, s'il faut aller droit au but, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'état actuel des populations?
Alors, les oiseaux, comme beaucoup d'autres espèces, c'est la sixième extinction. C'est-à-dire qu'on est en déclin majeur, qu'on constate surtout sur les espèces très communes, parce qu'on dégrade nos habitats. Alors, il y a le changement climatique, il y a aussi la transformation d'usage des sols, l'intensification des pratiques d'exploitation, la pollution, les pesticides. Et globalement, depuis qu'on compte les oiseaux de manière standardisée, on perd des oiseaux.
Ouais, mais les chiffres sont impressionnants. Hein. Quand on parle en pourcentage, là, il y avait une étude entre 1989 et 2019, c'est 28% dans les milieux urbains, 30% dans les milieux agricoles.
C'est à peu près ça, et ce sont des chiffres moyens.
Ouais.
Il y a des espèces qui sont, on va dire, généralistes, c'est-à-dire qui peuvent manger n'importe quoi, vivre n'importe où, et celles-là, elles peuvent être en augmentation. Mais les espèces qui ont besoin de ressources particulières, d'une vieille forêt, d'un type de chenille, elles, pour elles, ça peut être catastrophique. On perd 80% des tariers des prés, on perd 80% des tourterelles des bois depuis 30 ans.
Et est-ce que la France et l'Europe sont particulièrement touchées par rapport à d'autres zones dans le monde, ou c'est quand même, ça pourrait être assez généralisé? Cette baisse,
c'est généralisé dans les pays développés,
ouais.
Aussi bien sur le continent américain que sur le continent européen. On a montré que, alors il y a déjà une quinzaine d'années, que les pays nouvellement accédant à l'Union européenne enclenchaient une disparition des oiseaux des milieux agricoles, c'est-à-dire de mettre en place une politique agricole commune qui a pour viser la production et plus la préservation des agroécosystèmes, a entraîné un déclin des oiseaux.
Mmh. Jacques Lœil, dans votre film, donc Jean-Jacques Audubon, ce peintre du 19e siècle, a pu peindre justement bon nombre d'oiseaux qui ont aujourd'hui disparu. C'est ce que vous vouliez aussi montrer au travers de ce film, hein.
Oui, alors en fait c'est une sorte de river movie qui longe le Mississippi, qui descend Mississippi même, et les oiseaux sont des personnages qu'on rencontre, les oiseaux éteints notamment. Au début, je voulais raconter un film sans oiseaux réels, donc je voulais montrer que des oiseaux en papier, et effectivement ces oiseaux sont une vraie preuve de la disparition, et ils sont d'autant plus émouvants. Mais ce que montre aussi l'œuvre d'Audubon, c'est une façon d'aimer le monde, et je crois que c'est une idée essentielle pour continuer à avoir envie d'avancer.
On voit évidemment ces dessins très naturalistes, très expressifs, très joyeux aussi, hein, de ce monde des oiseaux. On écoute un extrait de Birds of America qui concerne la chasse d'oiseaux et une espèce en particulier.
Des chasses sanguinaires se livrent sans merci. Mais personne ne pouvait imaginer que l'homme parviendrait à exterminer jusqu'au dernier, l'oiseau le plus abondant de la planète. Pourtant, la veille de la Première Guerre mondiale, Martha, la dernière des colombes voyageuses, s'éteint dans une cage du zoo de Cincinnati. Sa dépouille devient le symbole de l'extermination des oiseaux et traverse l'Amérique jusqu'à Washington, où elle atterrit dans les collections du Musée national d'histoire naturelle.
Voilà, Martha, c'est donc tout un symbole, hein, Jacques Lœil. Hein.
D'autant plus que c'est une colombe et qu'elle s'éteint à la veille de la Première Guerre mondiale, donc c'est doublement un symbole.
Hein. Absolument. Victor Noël, alors on vous voit, je le rappelle, dans le documentaire d'Hugo Clément, hein, qui sera diffusé dimanche. Pourquoi est-ce que vous partez d'abord avec lui dans les tours de la Défense? Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer là-bas, exactement?
Alors, on cherchait avec l'équipe de Sur le Front un lieu qui, finalement, pourrait être un peu le symbole d'une artificialisation et d'une... Oui, qui finalement ne prend pas en considération le vivant et les oiseaux en particulier dans sa conception. Donc la Défense, c'est un peu le paroxysme de cette urbanisation. Donc on a des grandes tours en verre dans lesquelles les oiseaux se heurtent. Et finalement, il y a pas beaucoup d'interstices pour que les moineaux, par exemple, puissent nicher. Et donc c'est un peu ça rentre un peu en contradiction avec d'autres types de bâtiments. Par exemple, j'ai vu un commissariat qui a été pensé vraiment pour les oiseaux avec des bandes autocollantes espacées de 5 cm. Donc finalement, c'était un peu pour montrer que dans chaque décision d'urbanisme, mais ça c'est en général dans la société, le vivant n'est pas toujours pris en considération. Mmh. Et c'était ça un peu le message.
Frédéric
Giguet, c'est un peu un système de valeurs qui est à modifier. Quoi.
Ouais, Frédéric Giguet, ces bâtiments en verre, par exemple, clairement, ça peut participer à la disparition des oiseaux aujourd'hui, ou il faut prendre ça avec un peu de mesure?
Ça peut participer, l'artificialisation c'est sûr, les chocs et les mortalités sur les bâtiments en verre, c'est très important, alors notamment aux États-Unis sur la côte,
ouais.
Pendant les périodes de migration, à New York par exemple, hein, sur le mémorial du World Trade Center où ont été placées des grandes lumières qui éclairent vers le ciel. Il y a tout un système de détection des oiseaux migrateurs pour les couper les nuits où il y a beaucoup d'oiseaux pour éviter qu'ils soient attirés et qu'ensuite ils percutent les gratte-ciels qui sont alentour.
On parlera de la question des nichoirs parce que c'est important aussi pour recréer des habitats aussi pour les oiseaux si on souhaite maintenir ces populations. Et vous répondrez au message qui arrive sur franceinter.fr. Vertigo, la voix de Juliette Armanet.
La Terre au carré. Sur France Inter.
On a combien d'espèces chassables en France ?
Environ une soixantaine d'espèces d'oiseaux. C'est beaucoup plus que la moyenne européenne. On est un des pays les plus riches d'Europe en diversité d'oiseaux du fait de la position de la France géographique, qui accueille plein d'oiseaux migrateurs.
La France autorise la chasse de 63 espèces d'oiseaux, dont certaines sont menacées. C'est beaucoup plus que tous nos voisins. En Italie ou en Espagne, on peut chasser seulement 34 espèces. 24 au Royaume-Uni, 13 en Belgique et 3 aux Pays-Bas. On estime que 10 millions d'oiseaux migrateurs sont abattus en France chaque année.
Voilà, extrait de Sur le front, à voir dimanche, en compagnie à l'instant du naturaliste Pierre Rigaud, le doc d'Hugo Clément. Si vous aimez les oiseaux, il y a aussi un film donc qui est sorti la semaine dernière, Birds of America. On est avec son réalisateur Jacques Leuil et également Frédéric Giguet, ornithologue. Il y a pas mal de questions déjà, Camille.
Oui, justement, par rapport à la chasse, un petit pas de côté que Pierre nous fait sur franceinter.fr, Frédéric Giguet, il nous parle des campagnes d'abattage de corvidés dans les champs en ce moment. Il demande comment est-ce qu'on peut expliquer le recours à la chasse quand on sait que la biomasse en France et dans le monde des oiseaux chute très dangereusement. Est-ce qu'il y a des solutions pour éviter les destructions comme ça ?
C'est pire que ça. Ces destructions sont totalement inutiles parce que les corvidés sont extrêmement mobiles. Il se trouve que je bague des corneilles à Paris depuis 7 ans. J'en ai bagué 900. J'ai des oiseaux bagués à Paris qui ont été retrouvés aux Pays-Bas, à Angers, à Orléans, à Bourges. Donc ces oiseaux sont très mobiles. Et une corneille qui est sur un champ en train de manger une jeune plante, le lendemain, elle peut être à 300 km de là. Et une corneille qui n'était pas là peut être, et qui était à 300 km, peut être le lendemain.
Donc en gros, en abattre une, ça sert à rien, parce qu'il y en a une autre qui arrivera de toute façon.
Soit il faut abattre des corvidés partout, de la pointe de la Bretagne à la Belgique, pour qu'il y en ait beaucoup moins, soit effectivement ça ne sert à rien d'agir sur un champ. Alors ça, c'est
les données scientifiques. Après, il y a la transcription vers les gestionnaires, convaincre tout le monde et le mettre en place. Ça, ça prend du temps. Et actuellement, il y a effectivement 500 000 corvidés en France qui sont détruits chaque année.
Mais pour
je
rien,
pense pour rien, pour aucune efficacité contre les dégâts agricoles.
Jacques Lloyd, dans votre film Birds of America, donc c'est une balade tout le long du fleuve Mississippi, vous racontez comment la nature s'est dégradée et comment les humains finalement aussi aujourd'hui en sont victimes après les oiseaux, hein.
Oui, parce qu'il y a un épisode qui est important dans l'histoire américaine, hein, qui est à la révolution industrielle, sous Andrew Jackson, les grandes forêts du Sud ont été coupées pour y planter des champs de coton, hein, un système basé sur l'esclavage. Et donc, qui habitait ces forêts? Les Indiens d'Amérique. Et quand on a coupé les forêts, on a refoulé les Indiens vers un territoire qui allait devenir l'Oklahoma. Et les oiseaux ont suivi les Indiens dans cet épisode qui s'appelle La Piste des Larmes et qui est en fait un chemin vers la mort.
Donc c'est aussi l'histoire de ces peuples, hein, qui est en parallèle de celle des oiseaux, hein.
Tout à fait, d'autant plus que les Indiens ont des cosmogonies, des représentations du monde, une langue qui fait appel en fait à l'imaginaire animal.
Ouais. Victor Noël, on va parler quand même des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a pour aider les oiseaux. Alors, il y a dans le film justement d'Hugo Clément la question des nichoirs. On voit qu'il y a beaucoup de Français maintenant en installent pour sauver par exemple les moineaux. C'est une bonne solution ça, Victor, pour recréer des habitats pour les oiseaux?
Disons que ça peut les aider, parce qu'on se rend compte que, alors à Paris par exemple, les moineaux en 13 ans, 3 sur 4 ont disparu. Donc dans ces raisons, finalement, on sait pas exactement pourquoi, mais il y a plusieurs raisons. Ça pourrait être lié à la pollution sonore, la pollution de l'air, les perturbateurs endocriniens, peut-être aussi, comme les jeunes sont nourris d'invertébrés, d'insectes, peut-être qu'ils pourraient en moins en trouver. Mais c'est surtout, de ce que j'ai vu, en tout cas, en lien à cause de l'urbanisation, qui ne leur permet pas de trouver des anfractuosités, comme avant dans les anciens bâtiments. Donc en effet, les nichoirs peuvent pallier un peu à ce manque, les moineaux, puis à différentes espèces d'oiseaux plus globalement, quoi. Mais il faut pas croire qu'on va sauver les oiseaux avec des nichoirs. On va sauver les oiseaux avec une politique globale, un changement du modèle agricole, etc., quoi.
Voilà. Il est épaté, Frédéric Giguet, par ce que vous dites, hein. Vous auriez pu faire l'émission tout seul, d'ailleurs, Victor. On a juste invité Frédéric Giguet parce qu'on avait besoin d'une caution scientifique. Enfin bon, les solutions, elles existent, hein, Frédéric Giguet. Il y a quand même de bonnes nouvelles. Où est-ce qu'on trouve finalement le plus d'oiseaux aujourd'hui? Ça correspond à des choses très particulières, quand même, non?
Comme on a des comptages, hein, comme avec le programme Stock, mais il y a les mêmes comptages à l'échelle européenne et en Amérique du Nord, on a des comptages un peu partout sur des sites tirés au sort, donc on a des situations contrastées qui ont évolué ou pas, de l'agriculture intensive, de l'agriculture biologique, des bocages, des points en Beauce, dans les centres-villes, en pleine forêt, domaniale privée. Et on peut, en comparant, voir quels oiseaux restent dans ces endroits et comment les populations évoluent. Et donc, on sait que ça va mal globalement, mais on sait aussi identifier les situations où ça va mieux.
Alors, lesquelles ?
Voir où ça va bien. Les sites Natura 2000, les zones agricoles très diversifiées, où on a gardé des haies, où on fait de l'agriculture biologique ou avec moins de pesticides.
Et là, il y a carrément plus d'oiseaux.
Il y a plus d'oiseaux et il y a notamment, se portent beaucoup mieux les oiseaux des milieux agricoles qui sont le plus en déclin. C'est là qu'ils arrivent à se maintenir. Alors ici, ils sont maintenus parce que l'agriculture y est raisonnable, mais c'est à partir de ces noyaux-là qu'on pourrait recoloniser l'ensemble des champs si on arrivait à convaincre tout le monde d'adopter ce type de production.
Alors même pour les moineaux, hein, comme en parlait Victor, il y a des nouvelles qui sont plutôt un peu meilleures à Paris, hein, c'est ce que vous me disiez aussi tout à l'heure.
Oui, comme je savais que je venais qu'on parlerait moineaux, j'ai reçu il y a 15 jours les dernières données de comptage à Paris, envoyé par Frédéric Mahler, et donc je les ai analysés hier, et oui, on a une stabilisation depuis 2015 des effectifs de moineaux, mais une stabilisation tout en bas.
Donc la chute est enrayée quand même.
La chute est enrayée, il reste 2 moineaux sur 10 par rapport au début des années 2000, c'est pas beaucoup,
non.
Mais on a arrêté cette chute vertigineuse.
Et comment on pourrait l'expliquer?
Alors, c'est un petit peu compliqué, peut-être que l'effet, je suis d'accord avec Victor, moi je pense que la rénovation thermique, où on a bouché tous les petits caches-moineaux, tous les trous de façade, a été très dommageable pour les moineaux, les martinets, les hirondelles dans Paris, et que ça peut expliquer que la chute des effectifs, sachant que dans le même temps, on avait aussi arrêté les pesticides dans Paris, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait moins d'insectes ou moins de petites graines en hiver ou au cours de l'année. Donc là, on est peut-être arrivé au niveau le plus bas, et ça se stabilise à ce niveau-là, c'est une moyennement bonne nouvelle, parce qu'on est quand même très bas.
On l'apprend quand même.
On l'apprend.
Ouais. Est-ce que le réchauffement climatique, bon, qui a des effets évidemment très négatifs, mais est-ce que potentiellement pourrait y avoir des effets positifs ou pas du tout sur certaines espèces dans certains lieux du monde ou pas?
Il y a forcément des gagnants et des perdants localement. Après, c'est les grands mouvements qui vont, qui se passent pas forcément aussi vite que pendant les grandes.
Mais vous notez quoi? Ça perturbe plutôt, notamment les migrations, par exemple. Je crois que vous étiez donc assez récemment en Polynésie pour baguer des oiseaux migrateurs. Ça les perturbe plus que ça ne potentiellement pourrait les arranger?
Alors, ça, c'est sûr. Il y a des oiseaux migrateurs comme les cigognes qui vont partir moins loin. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Sachant qu'elles vont entrer en compétition avec d'autres oiseaux. Et puis, on va dire, sur des migrations à plus longue distance, ça peut poser beaucoup plus de problèmes. L'exemple du coucou qui part en Afrique, qui doit revenir, parasiter d'autres oiseaux. Mais s'il arrive en retard et que les rouges-gorges ont déjà pondu, il peut plus se reproduire, donc on perd les coucous.
On apprend d'ailleurs dans le doc de Hugo Clément qu'on mange des rouges-gorges dans notre pays. Je ne le savais pas.
En France ?
Exactement, on mange des rouges-gorges et qu'il y a tout un trafic autour des chardonnerets. Ça, c'est plus connu, effectivement, pour le chant de ces oiseaux. Jacques Leuil, on va terminer avec un dernier extrait de votre film Birds of America, puisqu'on voit que le peintre Jean-Jacques Audubon, très présent aujourd'hui dans la culture populaire américaine, a aussi inspiré un président des États-Unis.
Au début du XXe siècle, Theodore Roosevelt est le premier président et le seul à avoir gouverné en accord avec sa sensibilité pour l'environnement. Pendant son mandat, il sanctuarise 150 forêts, il crée 5 parcs nationaux et il ouvre 51 réserves ornithologiques. Aujourd'hui, la Maison-Blanche a définitivement tourné le dos aux oiseaux d'Amérique.
Et pourtant, Roosevelt s'est inspiré de Jean-Jacques Audubon.
Oui, je précise quand même que j'ai tourné pendant la présidence de Trump.
C'est à cette époque-là qu'ils ont vraiment tourné le dos.
Voilà, c'est pour donner un peu de contexte, effectivement. Et Audubon a même été, pendant la présidence, à un moment décroché de la Maison Blanche, puisqu'il était, en fait, ses œuvres et son portrait sont dans l'escalier qui mène aux chambres du président des États-Unis, en fait, dans les appartements personnels.
Ça s'appelle Birds of America, c'est sorti dans les salles la semaine dernière. Victor, vous l'avez vu, ce film, je crois que vous l'avez beaucoup aimé, d'ailleurs.
Oui, je l'ai beaucoup aimé, oui.
Donc vous nous le conseillez. Allez, j'espère qu'on aura le temps encore pour quelques questions dans un instant.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, on passe vers Camille Cronier.
Avec une idée qu'on voit dans les films de science-fiction, mais sur laquelle beaucoup de monde travaille dans la réalité, hiberner pour faire de longs voyages dans l'espace. On l'a vu sur les écrans, par exemple, dans Avatar ou Passengers, avec un petit souci, là.
Je pense qu'il y a eu un problème avec les modules d'hibernation. On s'est réveillé beaucoup trop tôt. 90 ans trop tôt.
Alors 90 ans trop tôt, c'est chaud. Hein. Et le scénario a inspiré des chercheurs qui ont voulu savoir si tout cela était au fond bien réaliste. Ils ont donc étudié biologiquement les animaux qui hibernent ou hivernent naturellement.
Comme
par exemple la marmotte, explique Roberto Nespolo de l'Université australe du Chili, qui va réduire sa dépense énergétique de 90% et utiliser donc la graisse accumulée avant l'hivernation, puisqu'évidemment on ne mange pas pendant. Résultat, pour un humain et 90 ans à tenir. Il faudrait qu'il parte avec 200 kilos supplémentaires de graisse corporelle. Autant vous dire que c'est chaud aussi. Hein. Et je ne vous parle pas non plus du problème de la taille. Hein. Plus on est grand, comme les ours au passage, plus la gestion de la dissipation de la chaleur est difficile. Sans parler aussi d'un problème évident, enfin si en fait je vais en parler, c'est Carlos Mezias, co-auteur de l'étude.
Les principaux problèmes associés sont qu'il n'existe pas la technologie pour provoquer l'état d'hibernation sur les humains et surtout il n'existe pas les technologies nécessaires de maintenir cet état pendant longtemps.
Voilà, donc en dehors de l'anesthésie, on ne sait pas encore évidemment plonger quelqu'un directement dans un roupillon de plusieurs mois ou plusieurs années, ni suivre ensuite ce roupillon. Mais, je vous le disais, hein, l'option hibernation est très sérieusement étudiée par les agences spatiales et des médecins suivent ça de près, comme Marc-Antoine Cousteau. Il est professeur de physiologie à l'université et au CHU d'Angers et auteur avec des collègues du CNRS de l'humain et l'espace, ses adaptations physiologiques.
C'est pas totalement délirant. Hiberner ou faire de l'hypométabolisme ou d'autres choses, c'est aujourd'hui de la science-fiction, mais faut voir loin. Peut-être que dans 50 ans, dans 100 ans, ça sera pas de la science-fiction.
Alors l'idée de cette hibernation ou de l'hypométabolisme, donc, pourrait évidemment répondre à plusieurs problèmes opérationnels en vol.
D'abord, économiser la nourriture. Ensuite, essayer de protéger l'homme le plus possible des rayonnements, qui est à mon avis le principal problème, comment protéger l'homme des rayonnements cosmiques. Et puis après, pour toutes les questions psychologiques, essayer de maintenir un équipage stable, soudé pendant une mission, même en prenant des personnes qui ont des qualités psychologiques exceptionnelles.
Oui, parce que bon, il y a des risques de péter un petit câble hein, quand même. Après, il rappelle malgré tout la base.
L'être humain, il n'est pas fait pour aller dans l'espace. Hein. Enfin, comme il n'est pas fait pour hiberner, il n'est pas fait pour aller dans l'espace. L'être humain, il a besoin d'être sur Terre, dans son environnement terrestre, donc tout ce qui est oxygène, pression atmosphérique, température, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on arrive à maîtriser dans les vaisseaux spatiaux. Mais il y a aussi la composante gravité. Il faut qu'il y ait la gravité, il faut qu'il y ait la gravité 1G pour que l'être humain fonctionne bien et puis pour que toutes ses fonctions physiologiques perdurent dans de bonnes conditions.
Et là encore, des idées sont en cours de développement.
De mettre des centrifugeuses pour créer une force de gravité ou alors de faire un grand vaisseau spatial qui tourne sur lui-même.
Mais tout cela n'est pas encore suffisant parce qu'il y a aussi le problème de l'absence d'interaction dite sensorimotrice pour cette fois Lionel Bringout de l'Institut des sciences du mouvement à l'Université d'Aix-Marseille.
On étudie les adaptations du geste à ces environnements gravitaires modifiés. Et ça, c'est un problème parce qu'effectivement, on peut voir des adaptations qui sont possibles du corps humain à partir du moment où le corps humain est exposé activement à ces environnements et bouge dans ces environnements. À partir du moment où il ne bouge pas, se pose la question en fait de l'adaptation, déjà, très simplement.
Voilà, c'est pas gagné qu'un astronaute soit au top post-hibernation. Imaginez déjà votre état à vous après avoir passé beaucoup trop de temps devant une série sur le canapé, n'est-ce pas ? Bref, tout un tas de questions se posent, comme des petits tiroirs hein, qui s'ouvrent et donc la recherche s'en empare dans toutes les disciplines. Carlos Mejías, au Chili, avec ses collègues, va continuer d'étudier le phénomène d'hibernation et hivernation chez ceux qui y arrivent naturellement aujourd'hui. Avec une belle morale, tendez l'oreille et continue de le tenter en français.
Il sait plus que les secrets du voyage vers Mars soient cachés dans les forêts.
Voilà, le secret du voyage vers Mars caché dans les forêts. Clé pour l'hibernation, c'est à méditer.
Et c'était Camille Passauvert à réécouter, bien sûr, sur franceinter.fr.
Frédéric Giguet, les oiseaux, ils pourraient hiberner Hiberner?
Non, ils se mettent pas en léthargie, mais il y a beaucoup d'espèces et des modèles d'études, notamment chez les lémuriens, où il y a aussi des léthargies ou du ralentissement d'activité quand le climat est trop chaud ou trop sec. Donc ça fait partie des pistes de recherche aussi d'adaptation au changement climatique.
Il y a des questions d'auditeurs qui sont arrivées. Gérard demande si la croissance exponentielle de la population de chats peut être mise en relation avec le sujet d'aujourd'hui.
Sylvie aussi là-dessus, ouais.
Exponentielle, je ne savais pas.
En tout cas, si la présence vraiment massive des chats...
C'est très discuté. Oui, il y a une prédation des chats domestiques dans les jardins, sur les oiseaux. Est-ce que c'est responsable du déclin des oiseaux par rapport à d'autres causes ? Non.
Ouais.
Mais c'est pareil, si on a une maladie grave, si on rajoute un rhume ou une grippe, ça peut aussi avoir des conséquences. Donc... c'est pas forcément bien.
Victor, est-ce que vous arrivez à sensibiliser vos camarades de lycée sur la question des oiseaux ?
Alors moi, jusque-là, risée à la maison, mais oui, bon, globalement, j'essaye de sensibiliser sur ces choses-là. Après, c'est vrai que on se rend compte quand même d'une chose, c'est que bien souvent, quand on parle d'écologie, on va parler de climat, et en oubliant un peu tout le pan biodiversité et faune, flore. Et donc, c'est vrai que le travail aussi qu'il y a à faire, c'est de justement de prendre conscience que non, l'écologie ne se résume pas à simplement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais passe par une prise en considération du vivant. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours ce message-là qu'on essaie de faire passer, qui est un peu plus compliqué. Mais oui, j'essaye. Et puis, de toute façon, c'est des choses qui intéressent, quoi. À partir du moment que on montre aux gens, qu'on les émerveille, parce que moi je pense que ça passe aussi par ça, ça passe par l'émerveillement. À partir du moment où on leur montre les oiseaux, on leur dit regardez le martinet, il se pose jamais, des petites histoires comme ça, c'est ça qui peut susciter aussi l'envie du changement finalement.
Et Jacques Leuil, les dessins d'eau du bon, c'est aussi pour s'émerveiller hein, parce que c'est aussi l'objet de votre film qui est très écologique au fond hein.
Oui, puis je crois que la relation entre l'homme et l'animal elle existe dans l'art depuis quasiment toujours, enfin depuis les grottes Chauvet, les grottes peintes, les grottes ornées, notre relation avec l'animal, elle est très ancienne. Et je crois que effectivement, depuis la révolution industrielle, l'animal disparaît de plus en plus de l'art et peut-être de notre imaginaire. Et c'est peut-être aussi quelque chose qu'on a du mal à mesurer, mais c'est une forme d'extinction, en tout cas, de notre imaginaire et de notre curiosité.
En tout cas, bravo d'avoir fait ce travail, d'avoir pris autant de temps pour montrer l'œuvre d'Eau du Bon et d'en faire un film pour le cinéma autour de la question des oiseaux et des peuples aussi, parce qu'il y a beaucoup question d'humains en ce qui concerne donc l'Amérique et le Mississippi. C'est en ce moment sur les écrans, il faut se dépêcher. touchés parce qu'évidemment, la durée de vie des films, c'est toujours très court. Donc là, c'est dans plusieurs salles dans notre pays. Et puis donc, dimanche à 20h50, France 5 sur le front où sont passés nos oiseaux avec vous, entre autres Victor et beaucoup d'autres invités autour d'Hugo Clément. Merci beaucoup Frédéric Giguet d'être venu également aujourd'hui.
Merci
dans la Terre au Carré.
Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita e bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muito atrito, treta, tem moamba, mas tem sertanejo, treta, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba,
sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba,
sem samba não dá, sem samba não dá, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Tezê da Coronel. Tem Irã e Maju, Simone, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando. Tem Léo Santana, Mendonça, Santelo, Limpa, Nidade.